Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu qui avait préparé à ceux qui vous aiment des biens que nul œil ne peut voir dans le ciel, versez en nos cœurs un ardent amour afin que nous puissions parvenir à ce que vous nous avez promis et qui surpasse tout désir. C'est la prière que l'Église adresse à Dieu aujourd'hui dans l'oraison de ce cinquième dimanche après la Pentecôte. Deux choses sont à considérer dans cette oraison. D'abord, le but de notre vie, qui est au ciel. Le but de notre vie est un bonheur qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que les hommes peuvent imaginer. Et pour y parvenir, eh bien, nous devons avoir dans nos cœurs un ardent amour de Dieu. Alors demandons-nous, qu'est-ce que c'est cet amour de Dieu, cette charité qui doit être dans nos cœurs pour obtenir ce bonheur pour lequel nous avons été créés et qui surpasse tous nos désirs. Pour comprendre ce qu'est la charité, il faut remonter jusqu'à Dieu, jusqu'à la vie de Dieu. La vie de Dieu, en effet, c'est une vie de connaissance et d'amour entre trois personnes. Dieu le Père se connaît parfaitement, et en se connaissant, il engendre Dieu le Fils, qui est la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa substance, dit saint Paul. Et puis, Dieu le Père et Dieu le Fils se donnent tout entier l'un à l'autre dans un acte d'amour éternel qui est le Saint-Esprit. Et c'est cette vie de connaissance et d'amour mutuel qui fait la joie et le bonheur des trois personnes de la Sainte Trinité depuis toute éternité. Eh bien, c'est pour nous y faire participer que Dieu nous a créés, que notre Seigneur aussi a souffert et est mort sur une croix, afin que nos péchés ne nous privent pas de ce bonheur pour toujours. Le jeudi saint au soir, dans ce long discours après la scène où notre Seigneur a épanché son cœur sur ses apôtres, notre Seigneur a condensé en une petite phrase tout le plan d'amour de Dieu pour les hommes. Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. Et notre Seigneur ne parlait pas seulement ici de ses apôtres, mais de chacun de nous. La destinée de l'homme, c'est d'être élevé à une vie d'amitié avec le Dieu infini, pour participer à sa joie et à son bonheur éternel. Bien sûr, si cela ne nous avait pas été révélé, jamais aucun homme n'aurait imaginé que cela puisse arriver. Réfléchissons à la grandeur de notre vocation à chacun. Aristote, le plus grand des philosophes païens, dans un magnifique traité sur l'amitié que reprendra saint Thomas d'Aquin pour parler de la charité, Aristote disait qu'une vraie amitié était possible entre des personnes inégales, par exemple, entre un maître et son disciple. Mais que cela était impossible entre l'homme et Dieu parce que la distance qui les sépare est trop grande. Eh bien, pour nous élever à une vie d'amitié avec lui, Dieu a comblé cette distance. En nous envoyant son Fils d'abord, qui a pris notre nature humaine. Et puis en nous élevant au-dessus de notre propre nature, par la grâce sanctifiante. Et en se donnant à nous, en se faisant manger par nous à la Sainte Communion, il ne pouvait pas aller plus loin. Bien sûr, dans cette vie d'amitié, Dieu reste le Dieu infini et l'homme reste une créature limitée. Mais nous sommes suffisamment élevés par la grâce pour mener une vraie vie d'amitié avec Dieu, à condition bien sûr que nous n'ayons pas chassé la grâce de notre âme par le péché mortel. Il n'y a pas de charité si l'on n'est pas en état de grâce, il faut le rappeler aujourd'hui. Mais qu'est-ce que cela veut dire, une vie d'amitié avec Dieu, concrètement ? Saint Thomas d'Aquin, reprenant Aristote, dit que l'amitié, qu'est-ce que l'amitié ? Naturelle déjà, eh bien c'est un amour mutuel, un amour de bienveillance par lequel chacun veut le bien de l'autre. Il y a donc une communication continuelle de bien entre deux amis, un échange continuel de bien entre deux amis. Qu'est-ce qu'ils se communiquent entre eux? Eh bien, des pensées, un idéal commun, ils aiment se rencontrer pour se parler. Et puis chacun se donne à l'autre pour le bien de l'autre. Et c'est ce que Dieu fait avec nous dans la charité. D'abord, il nous fait connaître ce qu'il est par le don de la foi. Nous devons aimer à nourrir notre foi par la lecture religieuse. Nous ne nous contentons pas des sermons du dimanche, ce n'est pas suffisant du tout. Ainsi, par exemple, la lecture des saints évangiles, la lecture d'un bon livre de doctrine, par exemple le catéchisme du Concile de Trente. C'est Dieu qui nous parle là. Aimons à être enseignés par le bon Dieu. Et puis par les dons du Saint-Esprit, les dons d'intelligence, de conseil, de sagesse. Dieu nous fait voir toute chose, tout événement de notre vie comme il les voit lui-même, c'est-à-dire comme ils sont réellement. Alors nous voyons toute chose en esprit de foi et pas seulement naturellement comme les païens, il n'y a pas notre vie du dimanche et puis dans la semaine on réagit purement naturellement à tous les événements de la vie. Non, avec les dons du Saint-Esprit, nous voyons les choses comme il nous aide, Dieu nous permet de voir les choses comme il les voit, par exemple. La valeur des sacrifices de nos devoirs quotidiens, les épreuves et les difficultés de notre vie comparées avec la croix de notre Seigneur, les événements providentiels aussi qui concourent à notre bien dans notre vie. Regardons en arrière tout ce qui nous a conduits et qui est arrivé à ce que nous sommes ici aujourd'hui. Et puis Dieu, le bon Dieu, nous fait participer à la vie d'amour de la Sainte Trinité, pas seulement cette connaissance, il nous parle, mais aussi la vie d'amour de la Sainte Trinité. Alors là, c'est par le don de la charité, c'est là que la charité entre en jeu. Comme le dit saint Paul, l'amour de Dieu est diffusé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La charité qui est dans nos cœurs nous fait participer à l'amour par lequel le Père et le Fils s'aiment éternellement dans la Sainte Trinité. On doit dire que la charité en nous, c'est comme un reflet sur notre âme de l'amour qui est en Dieu. Et il est capital de comprendre ici que dans la charité surnaturelle, c'est notre volonté qui est prise. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est notre volonté. Parce que l'amour en Dieu est identique à sa volonté. La charité nous fait participer à cet amour, eh bien en unissant notre volonté à la volonté de Dieu. Donc pour savoir si nous sommes unis à Dieu, si nous sommes les amis de Dieu, il faut nous demander non pas si nous avons de grands sentiments dans la prière, non. Nous pouvons être dans la sécheresse totale. Il faut nous demander si nous faisons la volonté du bon Dieu. Si nous faisons la volonté du bon Dieu, à tout instant, nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ, même si nous sommes dans la sécheresse dans notre âme. Comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « À toutes les consolations, je préfère la monotonie du sacrifice obscur. » Et dans nos journées, il y a beaucoup de monotonie du sacrifice obscur. Mais nous savons, par la foi, que nous sommes unis au bon Dieu si nous faisons sa volonté. Ça doit suffire pour nous mettre dans la paix et nous rendre heureux. La charité, elle est don de soi à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu, jusqu'au sacrifice de nous-mêmes. Et notre Seigneur nous a montré l'exemple premier en descendant sur terre pour s'offrir en sacrifice. Don de soi à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu, jusqu'au sacrifice de nous-mêmes. C'est ainsi que nous travaillons pour la gloire du bon Dieu et pour l'extension de son règne. Et c'est cela notre réponse à tout ce que Dieu nous donne. C'est cela notre vie d'amitié avec Dieu, cette union de volonté. Ceci étant dit, nous comprendrons plus facilement maintenant ce qu'est la charité envers le prochain. Il fallait commencer par la charité envers Dieu. C'est une conséquence. Puisque la charité unit notre volonté à la volonté du bon Dieu, puisque nos deux volontés ne font plus qu'un, eh bien la charité envers le prochain consiste à vouloir pour le prochain le bien que Dieu veut pour lui. La charité envers le prochain consiste à vouloir pour le prochain le bien que Dieu veut pour lui. Saint Thomas d'Aquin dit « La raison d'aimer le prochain, c'est-à-dire le motif qui nous fait aimer le prochain, c'est Dieu. » Et il continue en précisant « Ce que nous devons vouloir pour le prochain, c'est qu'il soit en Dieu et qu'il glorifie Dieu maintenant et dans l'éternité. » Alors, l'œcuménisme actuel qui refuse de convertir, donc qui laisse les hommes en dehors de la religion que Dieu a fondée et qui seul peut sauver, l'œcuménisme actuel n'est pas de la charité. C'est même un péché contre la charité. Il a d'ailleurs été condamné par l'Église, il faut relire l'encyclique Mortalium Animos de Pie XI. Mère Teresa en Inde, qui avec ses sœurs va ramasser héroïquement les mourants dans les rues de Calcutta, mais qui au moment de la mort leur dit de demander pardon à leur Dieu hindou, et il y en a des milliers, et qui ne leur parle pas de Jésus-Christ, et qui refuse de baptiser les orphelins, ce n'est pas de la charité, c'est une caricature. Le nouveau pape qui, malheureusement, il y a quelques jours, vient de demander à la Congrégation pour la doctrine de la foi de maintenir la bénédiction des couples contre nature inaugurée par le pape François, cela n'est pas non plus de la charité. Car on encourage les hommes à rester dans le péché mortel, loin de Dieu, se dirigeant vers l'enfer. Et c'est en même temps un encouragement public à un péché qui est un grand scandale pour ce monde qui a perdu tous ses repères. Rendez compte que maintenant, il y a une permanence pour cela dans la basilique Saint-Pierre de Rome. On a oublié que la première charité, c'est de mettre les âmes dans la vérité, d'où toutes ces erreurs. Très grave. Terminons en écoutant saint Paul nous décrire la charité en acte. Charité pour le prochain en acte. C'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. On appelle ce passage l'hymne à la charité. Nous pourrons en profiter pour faire un petit examen de conscience et nous demander quels efforts nous avons encore à faire pour pratiquer une vraie charité envers le prochain. Écoutons saint Paul. La charité est patiente. C'est-à-dire qu'elle supporte facilement les défauts du prochain. Notre Seigneur dira qu'on voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais pas la poutre qui est dans le nôtre. La charité est douce. Elle évitera les mots cassants qui peuvent blesser. Si ça nous arrive, il faut demander pardon. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dira notre Seigneur. La charité n'est point envieuse. Loin d'être jalouse des biens qui arrivent au prochain, elle s'en réjouit pour le prochain. La charité ne s'enfle point d'orgueil. Loin de vouloir que les autres se mettent à son service, elle rend volontiers service aux autres parce qu'elle est bienfaisante. La charité ne s'aigrit de rien parce qu'elle pardonne facilement. La charité n'a point de mauvais soupçons. Parce qu'elle fuit le jugement téméraire. Méfions-nous de nos jugements sur les personnes, laissons le bon Dieu juger. Dans plus de 90%, on se trompe et nous en faisons régulièrement l'expérience. La charité ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité supporte tout, c'est-à-dire qu'elle excuse les défauts du prochain. La charité croit tout, c'est-à-dire qu'elle fait confiance a priori, en gardant bien sûr le bon sens. La charité espère tout, c'est-à-dire qu'elle espère toujours que le prochain pourra s'améliorer. Enfin, la charité souffre tout. Elle sait que, suivant notre Seigneur Jésus-Christ, elle sera critiquée, elle rencontrera des contradictions, des oppositions, peut-être même des persécutions, mais elle s'en réjouit parce que notre Seigneur dit qu'alors elle aura une grande récompense dans le ciel. Eh bien, voilà un beau programme. Demandons au Sacré-Cœur de Jésus qu'il nous aide à le réaliser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.